les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Aujourd'hui, le village de Béhuard est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui n'était pas encore le cas lorsque fut diffusée l'émission de Claude Dupont, Colportage, dans les matinales de l'été sur France Culture, le 2 septembre 1980. Béhuard, un village qui subit régulièrement les crues de la Loire, ce fleuve qui vit débuter tant d'événements historiques. Nous étions en Anjou, à Béhuard donc, mais aussi à Saint-Florent-le-Viel et à Saint-Laurent-de-la-Plaine.
Au micro des matinales, Claude Dupont, bonjour. Ce matin, nous allons passer l'heure qui vient en compagnie de l'archiviste de la ville d'Angers, André Sarrazin. Et André Sarrazin, peut-être est-ce un projet un peu ambitieux, mais je souhaiterais que vous nous fassiez pénétrer en quelques traits, il y a beaucoup de choses à dire de l'Anjou, mais en quelques traits au cœur de ce pays dont nous goûtons ce matin la lumière admirable dans votre maison, qui est elle-même d'ailleurs assez admirable. Elle est en tout cas la paix même, et on entend peut-être l'horloge qui est là et qui dit le temps qui passe. On voit à travers des fenêtres anciennes un jardin tout florissant, tout plein de paix et d'agrément. Est-ce que c'est ça un des caractères de l'Anjou? Est-ce que c'est cette douceur-là, pour reprendre un poncif?
Oui, effectivement, la douceur angevine, ce n'est pas un poncif, c'est une réalité. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une région, je crois, où on sent encore le passé, on sent la vieille France, un certain agrément de vie, une qualité de la vie, puisque le mot est très à la mode actuellement. Mais je crois qu'effectivement, c'est sur les bords de la Loire, et peut-être particulièrement dans notre Anjou, qu'il faut venir le chercher.
Est-ce que cette douceur angevine retentit sur le caractère des Angevins?
Ah, je le pense. Il y a un écrivain du XVIe qui, parlant des Angevins, il s'agit de Belleforêt, un mot assez joli, j'essaierai de me rappeler. Je crois qu'il dit ce sont des gens bénins et accostables, ayant je ne sais trop quoi de la douceur du terroir et climat que l'on y respire.
C'est joli d'être bénin et accostable. Alors, si vous êtes bénin et accostable,
dites-le pas pour moi.
Mais vous l'êtes aussi. Dites-moi un peu plus sur les Angevins. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Est-ce que c'est une solide tradition? Est-ce que c'est même quelque chose qui peut toucher, par exemple, du côté religieux à l'intégrisme? Ou est-ce qu'on a des idées un peu progressistes? Comment sont les choses?
Eh bien, je disais bénin et accostable. Je crois que ce qui me frappe le plus chez l'Angevin, c'est son caractère de bonne compagnie, de gens avenants, agréables, très équilibrés, s'efforçant toujours à la modération. Vous m'interrogez sur intégrisme ou progressisme, je crois que l'Angevin sait se garder des deux extrêmes. Je ne vois pas ici de cas très caractéristiques de ce que je crois pouvoir appeler des exagérations. On se rappelle le vieux mot de Philippe le Bel, « nous qui voulons toujours raison garder ». Donc l'Angevin, un homme calme, aimable, cherchant à éviter tout ce qui lui paraît violence, sauf alors si ses convictions profondes sont réellement heurtées. Et on assiste curieusement à ce moment-là à des réveils très brutaux. Je pense par exemple au XVIe siècle, aux guerres de religion, mais surtout à la guerre de Vendée, qui a extraordinairement marqué ce pays-ci, puisque la chose est vieille de près de 2 siècles maintenant, et que vous me disiez vous-même en avoir entendu parler par des gens qui évoquaient cela comme si ça s'était passé à l'époque de leurs parents seulement.
Oui, ça, nous aurons certainement l'occasion de l'évoquer encore, puisque je crois que c'est un début de la promenade à laquelle vous nous conviez ce matin. Mais est-ce que l'Angevin est un homme religieux ou est-ce que c'est un homme un bon vivant?
Il est un peu les deux. Il est un peu les deux, il est bon vivant, il pense que si Dieu a créé de belles et agréables choses, c'est pour que les hommes en profitent. Et en même temps, il est très religieux, très, très attaché à sa foi, surtout l'homme des campagnes, je crois, reste absolument attaché à la foi de ses pères, n'imagine pas la vie autrement.
Il le reste encore, c'est ce que vous dites est actuel.
Absolument. Absolument, certainement, en tout cas dans ce pays des Mauges et du Choletais, c'est incontestable.
Alors il y a tellement de richesses ici qu'il va falloir faire un choix et je vais vous demander ce que vous nous proposez comme but de promenade pour que nous essayions de comprendre un peu mieux ce que vous dites là.
Et ma foi, si nous allions tout près d'ici, à l'île de Béhar, que j'aime particulièrement, et puis de là, nous pourrions, un peu en aval, aller voir Saint-Florent-le-Vieil, qui est une ancienne abbaye et un lieu historique assez important, puisque c'est là pratiquement qu'a éclaté la guerre de Vendée.
Alors Béhar d'abord. Béhar, nous y sommes, et pour arriver à Béhar, nous avons franchi la Loire. De quelque côté que nous arrivions à Béhar, d'ailleurs, nous aurions eu à franchir la Loire, car Béhar est une île, et chose assez merveilleuse par ce temps, c'est une île de verdure. Je suis là, près de l'église, dans un jardin, d'où l'on voit un tilleul, des résineux, un grenadier, un cornouiller, un tilleul, l'église qui est un demi-rocher, et puis une construction dessus, une construction ancienne, et un frêne. Et tout ça fait un ensemble assez étonnant. André Sarrazin, cette église, quelle est son histoire ?
Eh bien, c'est une histoire immense, une histoire extraordinairement longue, puisque sur ce rocher, rocher dont il faudrait parler aussi, puisqu'il est une ancienne roche éruptive, nous avons eu même l'occasion d'amener ici Haroun Taziev, qu'il l'a reconnu comme étant le reste d'un volcan hercynien. Bon, sur ce rocher donc, dès avant le christianisme, était honorée une déesse mère gauloise, protectrice des navigateurs de la Loire. Puis, au 5e siècle, un évêque d'Angers, Saint-Maurille, a placé ici une statuette de la Vierge Marie, elle aussi protectrice des navigateurs de Loire, et dont la fête se situe au 8 septembre. Nativité de la Vierge. Nativité de la Vierge qui porte d'ailleurs dans le calendrier romain le nom de Notre-Dame Angevine. Vous voyez, c'est très spécifique à notre région.
Cette Vierge a été célébrée au long des temps.
Elle l'a été depuis le 5e siècle jusqu'à nous, avec des heurts et des malheurs. Par exemple, on a tout lieu de penser qu'au moment des invasions normandes au 9e siècle, l'île a été envahie par les campements de Normands avec leur dracard, n'est-ce pas ? Que la Vierge aura été par eux peut-être jetée dans la Loire. Car il y a une curieuse légende. Les légendes méritent toujours qu'on s'y arrête. Elles reposent souvent sur des faits sérieux. On raconte que postérieurement, un pêcheur de Denay, tout près de Béhar, a retrouvé cette statue dans son filet. Elle a été replacée sur le rocher et s'est construit à ce moment-là une petite chapelle sur le sommet du rocher que nous regardons.
Cette petite chapelle, elle n'est pas très grande. En effet, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme dimension ?
Oh, elle a une vingtaine de mètres de long, quelque chose comme ça. Alors, elle-même a succédé à la chapelle d'origine. La première chapelle, on en connaît l'existence par un chevalier Buard, qui était seigneur des îles Sainte-Marie, qui ont pris son nom par la suite. Ceci se passait au XIe siècle. Et le chevalier Buard, à sa mort, a fait don de son domaine à une abbaye d'Angers, qui est l'abbaye Saint-Nicolas. On conserve d'ailleurs un fragment de son testament, qui est, je crois, intéressant. C'est daté d'un peu après le 14 novembre 1060. Et si vous voulez, en voilà en quelques mots le texte. Il dit ceci: « Moi, Buard, chevalier breton, douloureusement affecté par la mort récente du comte Geoffroy Martel, c'était le comte d'Anjou, je donne pour le repos de l'âme de ce dernier, au monastère de Saint-Nicolas, où il avait revêtu l'habit monastique et où il avait choisi d'être enterré dans le chapitre, deux îles en Loire. L'une, La Roche, c'est là où nous sommes, La Roche, où se trouvent ma maison et ma chapelle, et l'autre, où sont mes pâturages et mes bois, toutes mes pêcheries, une écluse sur la Loire, un canal, un moulin, trois bordages de terre à la bigotière, à la condition que j'en conserve la moitié jusqu'à ma mort, sous la surveillance du moine Gérard qui vit avec moi, c'était donc son chapelain probablement, et que mon anniversaire soit célébré chaque année par les moines de Saint-Nicolas, ceci du consentement du comte Geoffroy le Barbu et de Julienne son épouse qui souscrivent cette donation.
Bon, ceci date donc de 1060, est-ce que les moines de Saint-Nicolas ont respecté ce vœu et jusqu'à quand ?
Le vœu a été respecté. Mais au XVe siècle se produit un nouvel incident. Le roi Louis XI, qui avait passé son enfance en Anjou, puisque sa mère était Marie d'Anjou, sœur du roi René, Louis XI était venu fréquemment en pèlerinage étant enfant à Béhar.
Il savait que Notre-Dame de Béhar est la protectrice des navigateurs, des gens qui sont sur l'eau et en difficulté. Voilà qu'un jour, en 1442, il se trouve sur la Charente, en véritable danger de noyade, car son bateau s'était malencontreusement aventuré dans le bief d'un moulin. Il invoque Notre-Dame de Béhar et dit-il après, dans un document officiel, ce bateau miraculeusement se dirige aussitôt vers la berge. Et il fait le vœu de reconstruire l'église de Notre-Dame de Béhar, ce qu'il entreprend 20 à 25 ans plus tard, et il construit cette ravissante église bien typique de la fin du gothique flamboyant que nous avons ici, et qui, depuis lui, pratiquement n'a guère changé. Lorsque nous entrerons, vous verrez en particulier les vitraux avec le portrait de Louis XI, le portrait de son fils Charles VIII, qui a achevé la construction après la mort du roi. Un certain nombre d'objets offerts par lui, en particulier une très belle cloche. Malheureusement, vous ne verrez pas aussi de très beaux objets, calices, patènes, ostensoirs, etc., qui étaient des dons royaux et qui nous ont été volés il y a malheureusement 5 ans.
Nous voici maintenant dans l'église de Béhar. Elle est pleine de monde. Est-ce que c'est des fidèles? Ils ont l'air recueillis. Il y a beaucoup de cierges allumés. Est-ce que l'église est toujours l'objet d'un culte?
Oui, la Vierge de Béhar est toujours l'objet d'un très grand culte de la part de tous les Angevins et même de gens venant de régions assez éloignées. Par exemple, souvent on voit des gens venir de Bretagne ou de Vendée ici. Pourquoi sont-ils attirés à Béhar? Bien parce que ce sanctuaire, je crois, est resté très vivant. Et puis, ce rocher au milieu de la Loire frappe beaucoup la Vierge Béhar. C'est vraiment la protectrice des gens qui vont sur l'eau. Cette eau qui est peut-être aussi le rappel des eaux du baptême. Je pense que c'est quelque chose comme cela. Il vient invoquer la Vierge pour ne pas se noyer ceux qui vont sur l'eau. Il faut peut-être entendre aussi par noyade un sens spirituel. Elle est vraiment la Vierge accrochée au rocher vers laquelle vont les gens qui sont en péril d'une manière quelconque, je pense.
Oui, l'église elle-même est comme un bateau au milieu de l'eau, d'une certaine façon. Mais je vois là, sur l'un des côtés de l'église, des chaînes accrochées au rocher, car c'est le rocher même qui fait le mur. Qu'est-ce que sont ces chaînes?
Alors, c'est une histoire assez extraordinaire. Vous vous rappelez que, autrefois, les pirates barbaresques d'Alger, du Maroc, sillonnaient la Méditerranée et faisaient des captifs parmi les marins chrétiens qu'ils pouvaient capturer. Et ces fers ont été apportés au XVIIIe siècle, et je crois bien que c'est en 1755, par deux marins d'origine irlandaise qui avaient été enchaînés pendant de longues années sur les galères d'Alger. Et ils avaient d'ailleurs eu les yeux crevés par les barbaresques. Et ils avaient fait vœu à la Vierge de Béhar, dont ils avaient entendu parler, je ne sais comment d'ailleurs, de lui apporter leur chaîne s'ils étaient délivrés. Je pense qu'ils ont dû être délivrés par les galères de l'ordre de Malte, qui, comme vous savez, assurait une sorte de police sur la Méditerranée.
Je me demande ce qui attire les gens ici. Si c'est le site qui est très beau et très singulier, si c'est cette atmosphère, si c'est l'histoire, ou si c'est la piété.
Je crois que c'est tout. C'est l'histoire, c'est la beauté du site, mais c'est aussi un lieu de recueillement pour les croyants, bien sûr, et également pour les non-croyants qui trouvent ici une certaine atmosphère de sérénité à laquelle je pense qu'ils sont très sensibles.
Ce qui frappe dans cette visite rapide de Béhar, c'est le rocher hors l'église, le rocher dans l'église. Mais il y a aussi un autre personnage qui, je crois, a une importance considérable ici, c'est le fleuve, André Sarrazin.
Oui, le fleuve, il est absolument omniprésent à Béhar, on le voit de partout, il est toujours très proche, il est magnifique avec ses longues grèves en été, pour le plaisir des estivants en particulier. Il est là pour les pêcheurs, et puis il est là en hiver, et sa présence finit même par être quelquefois un peu indiscrète, car il lui arrive de recouvrir les rues du village, voire même de ne pas hésiter à entrer dans les maisons. Mais enfin, je vois qu'arrive près de nous maintenant M. Pierre Richoux, le maire de Bévard, qui appartient à une vieille famille du pays et qui connaît admirablement Bévard, et je suis sûr qu'il va vous dire des choses extraordinaires là-dessus.
Monsieur le maire, vous êtes d'une île ?
Je suis non seulement d'une île, mais j'y suis né. Et j'y mourrai, si Dieu le permet.
Et vous vous sentez une mentalité d'Ilien ?
Je suis resté maire de Bévard pour conserver au pays son nom et son origine. Parce que Bévard, sans être une commune, ne serait plus Bévard. Bévard est indispensable au département, puisque c'est un principe, le rendez-vous de tous les Angevins. Et Bévard est une île qui est très visitée et qui est quand même très agréable. Elle est inondable l'hiver, c'est sûr. Mais pour nous, personnellement, il y a. On ne peut pas dire que ça nous fait plaisir, mais on l'adopte très bien. Et croyez-moi que je prends sans aucun scrupule le bateau à la porte de ma maison pour me rendre à Savonnières, chercher le courrier et les commissions des habitants. Et pour nous, ça fait partie de la vie. Si un jour on aménage la Loire et que Bévard ne s'est pas inondé, peut-être que ça sera valable, mais ça nous changera un petit peu notre vie.
Ne me dites pas qu'il vous manquera quelque chose s'il n'y a pas d'inondation.
Si, un peu.
Parce que ça... Quoi ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une inondation ?
L'inondation, si elle est grave et importante, fait le lien de tous les habitants, comme la guerre le fait avec tous les Français. Quand il y a un danger, tout le monde s'entend et tout le monde se rapproche. C'est peut-être un accessoire de les inondations, mais c'est un accessoire qui est quand même valable et important dans la vie d'une commune.
Quand vous parlez d'inondation grave, ça veut dire quoi ? La Loire recouvre tout Bévard ?
Tout Bévard est dans les maisons. Et c'est là que tous les gens se rassemblent pour essayer de déménager et sauver quand même des eaux, le principal de leurs habitations. Aussi bien pour évacuer les bêtes qui sont restées dans les étables et qu'on est obligé d'évacuer par bac. Alors là, on a besoin du secours un peu de tous les bras libres. Alors là, il n'y a plus de dissension. Tout le monde est frère et sœur et tout le monde s'entend très bien.
Mais la vie continue, on arrive à faire son métier. Vous continuez votre métier ?
La vie continue de la même chose. Et si par malheur, les inondations arrivent au printemps, qu'elles détruisent les récoltes, ce qui s'est déjà produit pas mal de froid, pas mon lieu, une fois l'eau partie, tout le monde se remet au boulot et à ensemencer les terrains pour attendre une autre culture qui remplacera celle qui est partie.
Vous, ça vous est arrivé ? Quel est votre métier, monsieur le maire ?
J'étais au PTT, mais j'ai quand même resté à cultiver 4 hectares de terrain dans toute ma carrière. J'étais PTT, j'ai fait le tournée de Bévard, de Facteur et de Savonnières, et je l'ai fait encore en temps d'inondation.
Comment l'a fait-on en temps d'inondation ?
Je l'ai fait en écharce. Je l'ai fait en barque et en botte, actuellement parce qu'il y a des cuissardes, mais quand il y a des inondations importantes, c'est tout de même en bateau. Mais actuellement, c'est déjà le problème est beaucoup plus simplifié, car tous les bateaux sont motorisés. Et dans mon temps ancien, puisque malheureusement j'ai 68 ans, ça se faisait à la bourde et à la rame.
La bourde, c'est-à-dire ?
La perche qui pousse le bateau, parce que dans les rues, on ne peut pas ramer, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez large. Et ça se faisait comme ça. Et je l'ai fait depuis l'âge de... Enfin, depuis mon arrivée du régiment, depuis 35. Si vous voulez, on est quand même déjà en 80. Et je le fais pratiquement tous les ans encore.
Et pour les autres habitants, comment les choses se passent-elles ? Pour le ravitaillement, pour les écoles ?
Les écoles, il n'y en a pas à Bévard. Les écoles sont à Savonnières. Ceux qui ont des enfants bas âge et qui n'ont rien qui les retient au pays, ils évacuent. C'est le cas pour plusieurs. Et d'autres mènent leurs enfants à l'école tous les jours. Sans problème. Et c'est le rendez-vous des Iliens, si vous voulez, à Savonnières, où la société La Concorde rassemble un petit peu... aux heures différentes de la journée, tous les gens de Bévard.
Et le ravitaillement, comment se fait-il ?
Par barque, la même chose que pour tout le reste. On va chercher son pain, on va chercher sa viande, on se ravitaille normalement.
Mais vous parlez là de quelque chose qui est tout à fait exceptionnel ou qui est vraiment tellement entré dans la vie que ça arrive tous les ans ?
C'est quelque chose qui fait partie du pays. Et les inondations sont moins, peut-être pas moins importantes, mais durent beaucoup moins de temps que dans mon jeune âge. Les inondations, maintenant, quand elles ont passé 8 jours, dans le pays, elles sont montrées à vite. alors qu'autrefois j'ai vu 88 jours de l'eau dans le pays en hiver. Et j'ai fait la tournée de Savenières-Bévard 88 jours de rang. Actuellement, 8, 10 jours, 15 jours, c'est un maximum. Parce que la Loire a été creusée depuis Nantes jusqu'en Sny, si vous voulez, et l'écoulement des eaux est beaucoup plus rapide. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. C'est la raison, l'eau à 6 mètres à Bévard, ce qui représente l'eau dans les plus basses maisons, 8 jours après, elle est dégagée. Actuellement où nous sommes, il y a eu de l'eau en 77, au moins 60 cm, elle est partie très rapidement. Il reste quand même, après le passage des eaux, pas mal de nettoyage à faire. Vous savez, il reste beaucoup de limon, et on ne peut pas dire que quand même, c'est pour les ménagères un plaisir de se réinstaller dans les cuisines qui sont les plus basses des habitations, car il reste tout de même de l'humidité, et il faut attendre l'été pour que ça disparaisse un peu.
Pour les femmes, non, mais pour les cultivateurs, est-ce que ce limon est une richesse ?
Si l'eau vient en plein hiver, c'est pas un drame. Si l'eau vient au mois d'avril ou au mois de mai, c'est plus important. Là, on ne peut pas dire que c'est sensationnel, parce que déjà les prés sont poussés, la qualité du foin est complètement perdue. Et les récoltes sont à refaire.
Est-ce que vous avez un souvenir d'inondation précis ?
Je peux même vous raconter un accident qui aurait pu être très grave. Mon frère, le plus jeune de la famille, s'en rend à sa manière avec un menuisier et un de ses cousins qui était venu pour acheter ma salle à manger. En passant la guillemette, une imprudence de sa part, il a touché un peuplier, le bateau était au fond, et tous les quatre avec, et il y avait 10 mètres d'eau. Et c'était au mois de février. Et je faisais ma tournée sur la campagne de Savanières, et quand je suis passé dans une ferme à côté du château de la Biselière, les gens de la ferme m'ont dit, je sais pas ce qu'il y avait Bébert, on entendait crier au secours de chez nous. Là-dessus, j'ai répondu, bon, c'est pas un gars de chez nous, il connaît la rivière. C'était mon frère et ma sœur. Ils se sont pas noyés, on les a récupérés dans les arbres, et on n'a rien perdu. Le bateau a été retrouvé à 1 kilomètre de là. Dans le bateau, il y avait des bicyclettes, il y avait 3 poules, 1 litre d'eau de vie, 1 litre de lait, et tout a été récupéré sans qu'il soit perdu rien du tout. C'était peut-être pas un miracle, mais c'était quand même quelque chose qui ne lui arrive pas souvent.
La Loire, elle n'est pas seulement que méchante, elle n'est pas seulement que grosse. Est-ce qu'elle compte dans la vie du village en temps normal ?
On ne peut pas vivre sans la Loire. Elle est une île. Et la Loire, pour nous, ça compte. On l'est pratiquement, nous, Iliens, jamais une semaine sans les se rendre compte au bord de la Loire, ce qu'elle fait. Moi, j'y vois pratiquement 5 fois par semaine, si ce n'est pas plus. Elle monte, elle baisse. Ah, c'est dangereux ou c'est pas dangereux. Actuellement, là, en pleine saison, hier, elle a monté de 20 cm. Je ne sais pas pourquoi, des écourus sans doute. Pour l'instant, on la surveille. C'est pas parce que c'est les inondations, c'est parce qu'elle est très basse et les puits qui nous alimentent subissent la baisse des eaux. Actuellement, il y a beaucoup de puits qui sont pas à la limite, mais pas loin. Alors, s'il n'y a plus d'eau dans les puits, mon Dieu, c'est un problème parce qu'il faut leur creuser. Où on les là actuellement, c'est arrivé déjà à plusieurs reprises que l'intéressé manquait d'eau parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le puits. Alors que l'hiver, on en a dans les maisons, c'est peut-être un contraste qui est un peu juste. Et moi qui suis sourcier, parce que je suis chercher les sources souvent, je vais chercher les sources dans les montagnes ou dans les hauteurs. Je dis, vous avez de la chance, vous ne manquez pas d'eau. Nous, on en a trop l'hiver et l'été, on en manque. Et on est dans une île.
Donc vous la surveillez tout le temps ?
Oui. Oh, toute l'année. D'ailleurs, pratiquement un Ilien qui se respecte a un bateau. Et un bateau, il faut le surveiller. Un bateau, on l'est pas 8 jours sans y aller, c'est pas vrai. Surtout si dans le bras de la guillemette où les pétroliers passent. Les pétroliers nous abîment toutes nos rives, nous abîment tous les bateaux qui y sont. Si on ne les surveille pas, ils sont coulés facilement. Actuellement, on est tranquille, ils ne passent plus parce qu'il n'y a plus assez d'eau. C'est déjà une bonne affaire pour nous, peut-être pas pour les pétroles de l'Ouest. Enfin, on n'est pas contre le transport du pétrole par la Loire. Ça n'encombre pas les routes, où on est un petit peu moins chaud, c'est qu'ils nous abîment un peu trop nos rives, parce qu'ils vont trop vite, où on a des bateaux qui ne sont pas conformes au trafic qu'il peut y avoir.
La Loire, est-ce qu'elle vous nourrit ? Est-ce qu'il y a des pêcheurs ?
La Loire nourrit personne actuellement. La Loire, c'est un fleuve qui amène des pêcheurs, qui font peut-être travailler les restants, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, ils ont leur famille. Mais la Loire, autrefois, avait des pêcheurs qui vivaient de la pêche. actuellement pratiquement plus. Il y a encore sur le bord de la Loire, autour de notre île, un seul pêcheur professionnel qui pêche quelques saumons quand c'est la saison, quelques anguilles de dévalaison, c'est actuellement la meilleure pêche. Mais c'est peu. Et quand ce monsieur qui est à la retraite aura cessé son activité, il ne sera certainement pas remplacé, parce que ce n'est plus un métier.
Nous voici sur la place de l'église à Saint-Florent-le-Vieil. C'est la sortie de la messe un dimanche, il y a pas mal de voitures, des allées et venues, et je suppose que ce n'est pas pour ça que vous nous avez fait venir ici, André Sarrazin.
Non, mais je crois qu'il était très intéressant de voir ce Saint-Florent-le-Vieil qui est un haut lieu de l'Anjou, depuis les origines de l'Anjou chrétien, puisque Saint-Florent a été l'œuvre de Saint-Florent, disciple de Saint-Martin de Tours. Et son histoire s'étend en particulier jusqu'à la Révolution. La guerre de Vendée a pratiquement commencé ici.
C'est une église qui n'est pas particulièrement belle, mais elle est intéressante parce que c'est un lieu de pèlerinage, je crois.
Oui, c'est une forme un peu différente de pèlerinage. C'est un pèlerinage historique pour moi, surtout. Cette église, moi je l'aime, c'est une église reconstruite au XVIIe. Il y a des parties plus anciennes. Mais cette architecture classique, je la trouve quand même assez belle avec cette tour octogonale du clocher, qui est très élégante, que vous pouvez voir. Et puis des choses amusantes, regardez par exemple au-dessus de la porte le médaillon qui représente Louis XIV. Pour nous, il est parfaitement reconnaissable. Mais beaucoup de gens dans le pays, j'en suis persuadé, vous diraient qu'il s'agit de Charlemagne. Et ceci parce que la mémoire collective, n'est-ce pas, se souvient que c'est Charlemagne qui est le grand bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Florent dans ses débuts.
Si je dis que l'église n'est pas particulièrement belle, c'est parce que personnellement je la trouve un peu froide par contraste avec l'extraordinaire panorama qu'on a sous les yeux et dont il va bien falloir qu'on parle maintenant. Ce panorama, c'est celui de la Loire et c'est celui d'une succession de plans magnifiques parce que la Loire ici est large, qu'il s'y trouve de nombreux bras, qui sont séparés par de l'herbe, par du sable. Sur ce sable, d'ailleurs, curieusement, ce matin, il y a des vaches qui sont en train de se reposer, comme si elles prenaient un bain de soleil. Il y a un pont, il y a là-bas tout un rideau de peupliers, et puis un horizon de collines et de toits gris. Tout cela est très beau, mais c'est en plus chargé d'histoire.
Une histoire qu'il faudrait des heures pour raconter, mais je pense d'abord aux invasions normandes, par exemple, qui remontaient la Loire, qui campaient dans ces îles que vous voyez en face de nous, et où actuellement, Monsieur Dreuzy, qui est ici le conservateur du musée de Saint-Florent, est en train de retrouver les traces d'un campement danois. Et je crois même savoir que dans les archives de Copenhague, il a retrouvé des traces de ces passages des Normands qui sont restés dans nos légendes angevines sous le nom de dragons, à cause de leur dracar, je pense. Et puis, il y a cette guerre de Vendée à laquelle je faisais allusion. Le grand soulèvement du 10 mars 1793 commence ici. Les paysans, au moment où la Première République a voulu faire une levée en masse pour défendre les frontières, se sont soulevés brusquement en disant « Nous détestons ce régime et nous ne voulons pas les battre pour lui ». Au contraire, ils ont réclamé le rétablissement de la liberté du culte catholique, auquel ils tenaient essentiellement. Et la première grande bagarre, c'est ici à Saint-Florent, le 10 mars 1793. À peu près en même temps, d'ailleurs, dans d'autres parties de l'ouest de la France, il y avait des soulèvements. Ça a été une sorte de traînée de poudre. En quelques jours, tout l'ouest était embrasé. Et puis alors, quelques mois plus tard, les Vendéens ont commencé par avoir une série de victoires assez prestigieuses. En octobre 1993, après la défaite de Cholet, ils ont décidé de franchir la Loire pour aller retrouver les Bretons et les Manceaux et soulever les pays de la rive droite de la Loire.
Et c'est ici sous nos yeux qu'ils l'ont franchi.
Et c'est ici sous nos yeux, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Pensez à cette armée qui venait d'être battue, qui donc devait être assez démoralisée, qui comporte une bonne centaine de milliers de combattants et autant de civils, femmes, vieillards, enfants, etc., qui suivaient l'armée par peur des massacres qui auraient pu suivre. Et tous ces gens ont traversé la Loire sous la direction de ce célèbre Henri de la Roche-Jacquelin, qui, comme vous le savez, était un garçon de 19 ou 20 ans, et qui se trouvait à ce moment-là à la tête de l'armée. Napoléon était en très grande admiration à l'égard de la Roche-Jacquelin pour avoir réussi ce fait d'armes qu'est la traversée de la Loire, de toute cette population, avec des bateaux de pêcheurs simplement.
Ces bateaux, je ne sais pas si ce sont les mêmes qu'on voyait autrefois, mais il y a là des barques noires qui passent. Et un de ces grands bateaux qui servent à la pêche au saumon, mais je crois qu'il y a encore à Saint-Florent-le-Vieil quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est une statue de David d'Angers.
Oui, alors c'est la célèbre statue de Bonchamp. Charles Melchior, artiste de Bonchamp, est un général vendéen qui avait été grièvement blessé avec le généralissime Delbé à la défaite de Cholet, dont nous parlions à l'instant. Ces soldats l'ont transporté sur un brancard depuis Cholet jusqu'à Saint-Florent-le-Vieil. Lorsque Bonchamp est arrivé à Saint-Florent, il a appris que l'on avait entassé dans cette église abbatiale qui est devant nous les prisonniers républicains, il y en avait environ 5000. Et les soldats vendéens, extrêmement surexcités, tout d'un coup parlaient de massacrer ces prisonniers républicains. Bonchamp a été épouvanté de l'idée de ce massacre de prisonniers.
Et David d'Angers, après avoir esquissé un monument assez pompeux dont il y a un dessin au musée d'Angers, a fait là probablement un de ses plus beaux monuments où c'est un homme de, j'allais dire de chair et d'os, mais vraiment, car le marbre est très, très sensible, qui s'oppose avec une main vigoureuse à ce massacre.
Il y a une émotion qui se dégage de cette statue.
Saint-Florent, sur le bord de la Loire, 14 août 1855. Je viens de visiter le monument de Bonchamp, je suis venu lui faire mes adieux. J'ai retrouvé mes sensations du jour de l'inauguration où je voyais, sur les gradins du monument, ces jeunes enfants et sur deux rangs, dans l'église, leur vieux père, armé avec de vieux fusils rouillés. Et je pensais à mon père, l'un des prisonniers qui ont été sauvés par Bonchamp. Et c'est signé David d'Angers.
Vous savez, tout ce pays-ci a été terriblement marqué par les massacres de cette époque révolutionnaire. Quant à dire si tout le monde s'en souvient ici, je vous raconterai cette anecdote assez curieuse. Il y a une dizaine d'années, des amis à moi se sont installés dans ce pays-ci. Ils venaient de l'est de la France. Ils entrent un jour dans une ferme qui manifestement était un ancien château un peu dégradé. Et ils disent « Mais c'était un château cela autrefois ». Et l'autre leur répond « Oh oui, bien sûr, mais vous comprenez, ça a été incendié pendant la Grande Guerre. » « Mais pendant la Grande Guerre, disent-ils, les Allemands ne sont pas venus jusqu'ici. » Et le paysan le dit « Mais je vous parle de la Grande Guerre, je ne vous parle pas de la guerre de 14. » Car la Grande Guerre, pour beaucoup de gens ici, est restée la Grande Guerre de 1793, la guerre des Blancs se défendant contre les Bleus. Pour vous donner, si vous voulez, le ton de l'époque, ce ton sans pitié, chez ce fragment de lettre du 23 décembre 1793, qui émane du général Westermann, et c'est le soir de sa victoire sur les Vendéens à Savenay. Et il écrit au comité de salut public ceci. « Citoyens républicains, il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay, suivant les ordres que vous m'aviez donnés. J'ai écrasé les enfants sous le pied des chevaux, j'ai massacré les femmes, qui au moins pour celles-là n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé. La pitié n'est pas révolutionnaire. »
Si nous quittons Saint-Florent-le-Vieil, est-ce que nous gardons le souvenir de cette guerre de Vendée? Est-ce qu'elle est là toujours, ailleurs aussi?
Oh, dans cet ouest de l'Anjou, je ne dirais pas que c'est omniprésent, mais effectivement, on rencontre la guerre de Vendée à chaque pas. Et je crois que, si vous le voulez bien, nous irons au musée de Saint-Laurent-de-la-Plaine. Ce petit bourg a été lui aussi complètement incendié pendant la Révolution. Presque toutes les maisons que vous y verrez ont été reconstruites après, hormis une partie du presbytère, de l'ancien presbytère, où s'est installé maintenant ce très beau musée des arts et traditions populaires.
Le musée des vieux métiers à Saint-Laurent-de-la-Plaine se trouve entre Angers et Cholet, à mi-distance de chacune des deux villes. Je m'y trouve avec Victor Perrault, qui est charpentier, Abel Delaunay, qui est forgeron, et Joseph Albert, qui est cultivateur et secrétaire de mairie. Ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement la qualité et le nombre des objets amassés, ce n'est même pas non plus la manière vivante dont ils sont présentés, c'est la manière dont une équipe a travaillé et réussi à donner une âme à ce musée. Quelle est donc cette équipe? Comment s'est-elle réunie? Qu'est-ce qui l'a réunie? Victor Perrault.
Eh bien, l'origine du musée, d'abord, c'est une chose qui n'a pas été calculée à l'avance. Un jour, en rentrant du travail, on passe devant un monsieur de journée, le forgeron, et puis qui avait une brouette avec des vieux outils dedans. Puis on lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu veux faire de ça? Il dit, oh ben, je mets de l'ordre un peu dans la boutique. La boutique, c'est l'atelier, parce que par ici, on parlait toujours de boutique, jamais d'atelier. Oui. Alors, aussitôt, on a eu l'idée, on a dit comme ça, mais c'est quand même sourd de mettre tous ces vieux outils à la ferraille. Ceux qui viendront après nous, ils n'auront aucune idée des outils des anciens. Alors, on les met de côté. Allez, oui, allons-y. Alors, on n'avait pas encore idée de faire un musée. C'était tout simplement une affaire de sauvetage. On a aussitôt été sur la lancée et voir une dame qui s'appelait Madame Grégoire. Son mari était sabotier, il était mort depuis déjà 10 ans. On lui a expliqué qu'il nous était venu à l'idée de conserver tous ses outils. Alors on lui a demandé les outils de son mari. Ah, elle était contente de voir qu'il allait, comme elle a dit, « je suis-y contente qu'il se perpétue ». C'est exactement ce qu'elle a dit. Alors, on les a mis de côté, puis on... Bon, ben, c'est pas tout, c'est qu'on a des outils, qu'est-ce qu'on va en faire? Les mettre de côté où? Alors, on a demandé au maire, le grenier de l'Amérique est immense. Alors, on a commencé à entreposer dans le grenier de l'Amérique, toujours avec cette idée de sauvetage. C'était ça, la première année. C'est Monsieur Albert, après, qui a eu l'idée, le premier, de faire une exposition. Et ils ont fait une exposition... Ils étaient de bonheur. Et puis alors, après, on a fait une exposition. Puis alors, les gens ont été enchantés de revoir tous ces vieux outils de forgeron, faits par le forgeron, de menuisier, faits par le menuisier, de charpentier, faits par le charpentier. C'est ça ce qu'il faut voir. Hein. C'était jamais les gens achetaient des outils, ou des outils extraordinaires.
Bon, ça suppose déjà beaucoup d'initiative, beaucoup de patience, que de réunir des objets, mais j'oserais dire que c'est presque à la portée de tout le monde. Où ça devient tout à fait exceptionnel, c'est que on a l'impression maintenant que vous avez travaillé non seulement à exposer les objets, mais à leur créer un décor. C'est-à-dire que le charpentier, le forgeron, le menuisier, tout le monde a mis la main à la pâte. Comment ça s'est passé?
Dans un petit pays comme à Saint-Laurent, de 1200-1300 habitants, tout le monde se connaît et tout le monde est ami.
Nous voilà dans la pièce aux alambics. Les alambics sont des machines surprenantes, dont quelques-unes ont certainement un âge très avancé. Mais, curieusement, ce n'est pas aux alambics que nous allons nous intéresser, c'est au plafond de cette pièce, car la charpente est tout à fait remarquable. Et Victor Perrault, puisque vous êtes avec moi, vous allez bien me dire comment elle est née, cette charpente.
Vous voyez, ce plafond, ce plancher, comme on dit par ici, là, vu du dessous, est en norme. Alors, il est composé de grosses poutres, alors qui font 50-50 de côté, et puis une lambourde qui est fixée avec des clous, comme ceux que faisaient nos anciens, qui ont la tête en long. C'est pas un clou rond. Et il appelait ça des chevillettes. Et il y en a une tous les 50 cm, et les solives, qui sont en norme aussi, mais ce qu'on appelle en bois de brin, qu'appelaient les vieux, ça veut dire que dans chaque solive, c'est un arbre. Le cœur est au centre de la solive. C'est ébûché au carré. Alors, on a même quelques solives là qui sont en norme tortillère. C'était un orme qui était tout à fait noueux et qui était très recherché pour les moyeux de charrette, pour les charrons. Alors on en a mis quelques solives là pour faire voir justement ce bois qui était tout à fait quand même spécial. Alors autrement, au-dessus des solives, il y a du barreau fendu, du barreau de châtaignier. Alors comme ce plancher a été fait à 90% par des bénévoles, alors les ouvriers, ceux qui connaissaient leur métier, ont fait les travaux plus difficiles, les corbeaux ouvragés, les moulures aux poutres et aux lambourdes, et puis alors ceux qui étaient moins qualifiés, entre autres il y a un étudiant qui a fendu le barreau de châtaignier qui porte sur les solives, et puis au-dessus de ce barreau, il y a de la chaux grasse, il y avait quelquefois de la terre, de l'argile.
Quand le public vient ici, vous avez quelquefois affaire à des spécialistes. Ils s'interrogent sur ce plafond, ils vous posent des questions avec ce langage que vous employez pour l'instant.
Oui, parce que c'est le langage du coin, quoi. Par exemple, certainement nous, par ici, on appelait ça des chevillettes, mais je garantis pas qu'à 500 km, il appelait pas ça des clous. Mais enfin, tous les charpentiers connaissent certainement ces clous à la tête allongée. Le monsieur Delaunay, là, qui est forgeron et qui est à côté de moi, eh ben, c'est la seule fois de sa vie qu'il a fait des clous comme ça. Et même, je dirais en pensant, qu'il en a forgé un dimanche. Et je l'ai fait travailler un dimanche. J'étais à travailler les poutres, puis il me fallait absolument des clous, j'étais le trouvé. Je lui ai dit, allez, j'ai besoin de chevillettes. Il ne voulait pas du premier coup, puis allez, il allumait sa forge. Parce que quand même, dans ce temps-là, à Saint-Laurent-de-la-Plaine, travailler un dimanche, c'était un événement. Il fallait quand même faire attention.
Mais Abel Delaunay, vous aviez le modèle de ces chevillettes ou vous avez inventé?
Non, j'en avais vu déjà. La tête est voyée en forme de chapeau de gendarme. Mais non, de toute façon, moi je suis forgeron de père en fils déjà depuis plusieurs générations, alors ça se devine.
Donc au fond, ce plafond, c'est une œuvre commune. Là encore, c'est un témoignage de ce qu'a été ce musée.
Ah ben certainement, pour dire en passant, l'étudiant là, qui a fendu le barreau, il a tapé pendant 15 jours. Il avait des ampoules, si bien qu'à la fin, on a eu pitié de lui, on lui a donné un coup de main. Mais il ne voulait pas capituler, il voulait vendre. Il y en a 160 mètres carrés, hein. C'est qu'il a fallu qu'il tape. Et puis ce châtaignier-là, il nous avait été donné. Quand on fait du barreau, on prend des petits châtaigniers tout petits. Mais là, ça avait été donné, on l'a fait avec ce qu'on avait. Alors c'était noueux, ça fendait mal, alors il a eu de la misère, hein. Vraiment.
Les gens qui viennent, pour en venir à eux, est-ce qu'ils posent en dehors de ce plafond, est-ce qu'ils posent des questions et est-ce qu'il y a des gens de métier comme vous pour leur répondre?
Ben, il n'y a pas toujours un charpentier ou il n'y a pas toujours un forgeron, mais chacun a quand même une idée de... Parce qu'on en a tellement discuté ensemble, alors tous les visiteurs, ceux qui font les guides sont capables de leur donner des renseignements.
Vous savez ce que disent les gens qui parlent de vous, qui vous connaissent, c'est que vous êtes des mordus.
Oh, mais il fallait être mordu et un peu fou pour commencer une affaire pareille. Ah oh oui, quelquefois on se dit, ben, on est parti, mais le moral est toujours aussi bon, alors il y a de l'espoir.
L'espoir, c'est le développement du musée et on s'y active, croyez-moi. Rappel et précision, ce musée des vieux métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine se trouve donc à mi-chemin entre Angers et Cholet. Le musée sera ouvert tous les jours jusqu'au 15 septembre de 14h à 18h, puis en dehors de la saison d'été, tous les samedis et dimanches de 14h à 18h. En dehors de ces dates, on pourra exceptionnellement visiter le musée sur rendez-vous. Il faut alors téléphoner au 54 64 08 à Saint-Laurent-de-la-Plaine, 54 64 08. L'entrée est de 6 francs par personne et de 4 francs quand on visite en groupe. En disant au revoir aux artisans et maîtres d'œuvre du musée des vieux métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine, je reviens à vous, André Sarrazin, et je vais vous demander de clore cet entretien, l'entretien de cette matinée où vous nous avez conduits successivement à Béhuard, à Saint-Florent-le-Vieil et à Saint-Laurent-de-la-Plaine. À travers vous, nous avons essayé de comprendre un tout petit peu plus de l'Anjou profond. J'ai l'impression que l'histoire est une unité, mais qu'en même temps, c'est une histoire pleine de contrastes.
C'est une histoire pleine de contrastes, certes. L'Anjou, c'est en même temps le pays de la douceur de vivre. C'est aussi, comme vous l'avez vu, le pays où l'on sait se battre, voire mourir pour les valeurs reçues auxquelles on tient beaucoup. C'est aussi le pays de la fidélité, le pays d'une continuité. C'est ce qui me frappe en regardant cet extraordinaire musée où nous sommes, la continuité de l'artisan fidèle à ses prédécesseurs. Et on a recueilli ici, avec une espèce de piété, les outils qui avaient cessé de servir, mais dont on a compris qu'ils avaient une valeur d'exemple.
Alors au fond, sur le blason qu'on voit dans l'église de Béhuard, il faudrait ajouter fidélité?
Je pense. Fidélité serait un très beau mot pour définir notre région.
Fidélité, alors peut-être de vous qui la découvrirez, je vous le souhaite. Merci André Sarrazin. Matinale est terminée pour ce matin. Au revoir.
C'était Colportage dans les matinales de l'été, en Anjou, par Claude Dupont, première diffusion sur France Culture le 2 septembre 1980. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.